La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Abbey Reggae is carrying forward an important tradition.
Abbey Reggae porte une tradition importante d'éducation des peuples à propos de la liberté et de l'unité des êtres humains.
La voix de Horace Campbell dans La Marche du Monde. Il est un éminent spécialiste de la paix et de la justice, professeur à New York, à l'université de Syracuse, et il est également le premier Jamaïcain à diriger la chaire d'études africaines à Accra, au Ghana. Comme tous nos invités, il a rejoint la capitale de la Côte d'Ivoire en avril dernier pour la troisième édition du festival musical et culturel initié par Moussa Dosso, ministre d'État et promoteur d'Abbey Reggae. À ses côtés, sur notre plateau, son grand ami, le professeur Azumana Ouattara, responsable du colloque 2017 autour du panafricanisme et du rastafarisme, sans oublier le témoignage du reggae-man Sidney Salmon. Il vient de Chachamané en Éthiopie. Également dans la marche du monde aujourd'hui, Hélène Lee, spécialiste de la musique reggae et des origines du mouvement Rasta, et ma complice de toujours lorsqu'il s'agit de revenir sur l'histoire du rastafarisme, Julia Bonacci, spécialiste de l'Afrique et des diasporas africaines à l'IRD, l'Institut de recherche sur le développement.
Passagers, passagères du vol Air France, je suis ravie de vous confier au Festival international de reggae, Abbey Reggae 2017.
Et pour ce nouvel épisode de La Marche du Monde qui nous entraîne de Kingston à Abidjan, notre chargé de réalisation, Elliot Bourrel, a conjugué ses talents avec Sista Blunty, Selecta, collectionneuse. Elle joue uniquement ses vinyles reggae. Abidjan.
Yes, on vient d'arriver. Troisième édition du festival, Abbey Reggae Festival. On est tous regroupés. On a la Chine représentée, on a le Canada, on a la Turquie, l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie et bien évidemment la Jamaïque. Et justement, le point commun d'Abbey Reggae, c'est qu'on est tous ensemble. On n'est qu'un seul peuple. Ça, c'est le mouvement Rastafari. Tous ensemble dans l'unité autour d'un message. One love.
La marche du monde enregistrée au festival Abbey Reggae à Abidjan. Nous avons installé nos micros au sein même du Palais de la Culture, là où se déroule le colloque du festival, histoire de s'interroger sur l'histoire et la culture d'un mouvement, le rastafarisme, médiatisé par Bob Marley, star mondialisée du reggae. Alors ma première question est justement pour vous, le papa d'Abbey Reggae. J'ai nommé le ministre d'État, Moussa Dosso. J'aimerais savoir comment le jeune homme que vous étiez a découvert la musique reggae, et notamment Bob Marley, peut-être lorsque vous étiez un jeune Ivoirien.
Oui, alors donc je dirais simplement que c'est par Jimmy Cliff, en réalité, que j'ai découvert le reggae. Et puis depuis, mon ami et moi, donc il faut dire que nous sommes amis depuis la sixième. Depuis, donc, on a fait du chemin jusqu'à l'idée donc, de ce festival.
Professeur Azumana Ouattara, l'ami, c'est vous ? Dans ces années 60-70, quelles sont à l'époque les questions que vous vous posez en tant que jeune étudiant ivoirien et comment cette musique vous accompagne ?
Quand on est étudiant en France, en classe de lettres, on étudie l'existentialisme et l'humanisme de Sartre. On fréquente la littérature française et européenne. Si vous ajoutez à cela quelque chose qui vous caractérise positivement, par exemple la musique, le reggae, ça vous donne, par rapport à vos amis, un plus. Et c'est ce qui s'est un peu passé, parce que chez nous, à la rue Bobillo, on avait tout ce qu'il fallait pour écouter de la bonne musique. Et on invitait nos amis à découvrir cette musique qui montrait que nous étions en France, mais nous étions aussi ailleurs, c'est-à-dire en Afrique, tout simplement. On a découvert comme ça, Jimmy Cliff d'abord, Bob Marley, Toots and the Metals, et c'est le ministre qui m'a fait découvrir Toots, et on a cheminé à la découverte des musiciens de Côte d'Ivoire, Alpha Blondie, parce qu'on a découvert que chez nous, alors que nous étions en France, hein, on a découvert que Alpha faisait un tabac, et que sa musique même spécifique à l'Afrique rentrait dans le reggae pour nous émerveiller. Donc c'est un peu ce qui s'est passé.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
Julia Bonacci, vous êtes l'auteur d'Exodus, le retour des Rastas en Éthiopie. Vous avez participé au catalogue de l'exposition Jamaïca, Jamaïca, la cité de la musique à Paris. Pourquoi le reggae est-il historiquement une musique consciente ?
Le reggae transporte, en fait, à travers sa musique, mais aussi à travers ses textes et à travers les personnalités qui les chantent, une conscience qui est à la fois politique, une conscience qui est noire, décidément, mais aussi une conscience qui est universelle et qui s'adresse au monde entier, les pieds enracinés dans la lutte des descendants d'Africains pour leur liberté, une musique qui s'adresse au monde entier pour transmettre un message révolutionnaire de paix, d'amour et de solidarité.
Donc une conscience noire, vous l'avez ainsi qualifiée, une conscience religieuse, une conscience politique, avec une convergence sacrée, hein, ce point d'orgue qui a été le sacre de Haïlé Sélassié, c'était en 1930, et c'est l'événement qui lance en quelque sorte le mouvement Rastafari. Alors c'est un mouvement qui précède donc largement le succès interplanétaire de Bob Marley, Eleni, et vous avez longuement enquêté sur les premiers Rastas. Vous êtes l'auteur d'un livre, vous êtes l'auteur d'un film sur l'une de ses premières figures, Leonard Howell, et la fondation de la première communauté Rasta. Alors on aimerait comprendre à l'origine quelles sont les valeurs notamment d'Howell et comment cette communauté a pu fonctionner, dans quel état d'esprit.
Les premiers membres de la communauté étaient des gens très conscients parce que c'était souvent des marins qui avaient voyagé pendant des dizaines d'années jusqu'à la Grande Dépression où ils avaient perdu leur boulot généralement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et où ils avaient été obligés de rentrer en Jamaïque. Mais c'était des gens qui avaient été en contact avec cette explosion d'idées qu'on trouve au début du siècle dernier dans tous les domaines, que ce soit scientifique, que ce soit les faits de société, la libération des femmes, le marxisme, la révolution russe, la globalisation avec le canal de Panama, etc. Et c'est la totalité de ces pensées qu'ils ont rapportées au pays et c'est à partir de ça qu'ils ont créé la base de leurs valeurs. Et leurs valeurs, en fait, étaient très simples. C'était, pour être respectés, il faut que nous arrivions à être autosuffisants. Tant que nous sommes à la merci des planteurs, à la merci, parce que ça se passait en pleine colonisation, ça se passait avant l'indépendance de la Jamaïque, pour cela, il faut qu'on soit totalement autosuffisant. Et donc, l'idée, c'était avant tout d'avoir une terre où tout le monde pouvait s'installer, où il n'y avait pas de police, où il n'y avait pas de gouvernement, où il n'y avait pas de loi, sauf le respect de chacun. Donc, tout le monde pouvait avoir des idées différentes, tout le monde pouvait avoir des mœurs ou même des religions différentes. Il y avait des chrétiens, il y avait des hindous, beaucoup d'hindous, mais il fallait respecter la pensée de l'autre et travailler ensemble à ce que la société s'améliore pour qu'enfin on sorte de la faim et de la misère.
Alors vous, Sidney Salmon, vous qui êtes aujourd'hui un Rastafari du 21e siècle, jamaïcain, musicien, est-ce que vous connaissiez l'existence de Leonard Howell, le premier Rasta redécouvert par Helen Lee?
Oui, bien sûr, nous avons entendu parler de Leonard Howell. Il est l'un des fondateurs du mouvement Rastafari. Et nous l'honorons encore aujourd'hui pour le courage qu'il a eu d'offrir cette nouvelle philosophie au reste de l'humanité.
Et par qui, vous-même, avez-vous été initié au mouvement Rasta et qui sont les intellectuels ou les artistes qui ont été déclencheurs de votre propre adhésion au mouvement?
À travers la musique, c'est d'abord Bob Andy. Quand j'étais un jeune homme, j'écoutais beaucoup Bob Andy.
Je vois Hélène lui sourire.
Yes, Bob Andy was the man at that time who was. À l'époque, c'était lui qui portait le message et la conscience. Donc, bien sûr, il m'a influencé. As a young man, and of course, the King Robert Nesta Marley. Aussi bien que le roi Robert Nesta Marley. Et d'autres artistes. Mais ceux-là sont les principaux artistes qui ont eu un impact sur moi et qui m'ont amené à cette philosophie.
As artist, the person who really opened me up to Rastafari and to look in that direction was Dr. Vernon Carrington.
En tant qu'artiste, la personne qui m'a ouvert au mouvement Rastafari et qui m'a poussé à regarder dans cette direction, c'est le Dr. Vernon Carrington des 12 tribus d'Israël. Il parlait de Jésus dans cette philosophie, et à l'époque, ce n'était pas populaire. Dr. Vernon Carrington disait qu'il manquait une partie au mouvement, et ça, ça m'a intéressé.
Dr. Vernon Carrington est mon man.
Helen Lee a souligné la diversité des influences du mouvement Rastafari, et Sidney Salmon vient d'en témoigner à nouveau. C'est aussi un mouvement panafricain, Horace Campbell. Alors vous êtes vous-même le premier à avoir fait le lien entre Rastafari et politique dans vos travaux. Est-ce que c'est d'abord un mouvement du coup de résistance, et de résistance à quoi?
First, I want to thank.
D'abord, je veux remercier les auditeurs de cette émission faite à Abirégué.
Abirégué
porte une tradition importante d'éducation des peuples à propos de la liberté et de l'unité des êtres humains. Le mouvement Rastafari dont je suis issu est un mouvement pour la dignité, et je veux souligner ce qui a déjà été dit à propos de cette philosophie. Philosophiquement, ce mouvement introduit quelque chose à propos de l'émancipation de tous les êtres humains. Et le projet d'émancipation des Rastafari m'a touché quand j'étais jeune. Dans mon quartier, ouvriers, petits paysans, marchands, pêcheurs, dans le contexte colonial de l'époque, voulaient exercer leur autodétermination, leur dignité et la dignité de tous les êtres humains, et en particulier des Africains.
Most recently, my book on Rasta and resistance was translated into Spanish.
Récemment, mon livre « Rasta et résistance » a été traduit en espagnol par le gouvernement cubain. Cela veut dire que maintenant, l'État cubain reconnaît que le mouvement Rastafari fait partie du projet socialiste, un projet pour la liberté de l'humanité. Quand on parle de Rastafari à Abidjan et à Abirégué,
we're talking about a project that is to take human beings from the precipice of war that we are entering right now.
Nous parlons d'un projet qui peut nous éloigner de l'abîme de la guerre qui s'ouvre devant nous.
Ça, ce sont les mots du Jamaïcain Horace Campbell. Vous écoutez La Marche du Monde enregistrée à Abirégué, à Abidjan, où des dizaines d'artistes sont venus se produire, et sur la grande scène, vous chantez votre album The Ultimate Challenge, Sidney Salmon.
Confronts man today are equally unprecedented. They have no counterparts in the human experience. Men search the pages of history for solutions and precedents, but there are none, there are none, there are none.
this then becomes the ultimate challenge. Where are we to look for our survival? For these answers to these questions, questions that's never been posed. For these answers to these questions, questions that's never been posed. We must first look unto the Almighty God, who has raised man above the animals and has endowed him with intelligence and reasoning. We must put our faith in him. He'll not permit us nor allow us to destroy humanity, whom he created in his own image. Give thanks to the Lord God Almighty for these answers to these questions, questions that's never been posed. For these answers to these questions, questions that's never been posed. For these answers to these questions, questions that's never been posed. For these answers to these questions, questions that's never been posed.
Get up and stand up for your rights. Listen to La Marche du Monde sur RFI.
L'histoire du mouvement Rastafari inspire vos textes. Sidney Salman, quels sont les mots d'Haïlé Sélassié auxquels vous faites référence ici dans cette chanson?
Well, interestingly enough, this is the same speech which Bob Marley sang about when he made the song War.
C'est intéressant. C'est le même discours dont Bob Marley parle dans sa chanson War. Mais ce discours ne parlait pas que de guerre, mais bien de paix. Donc j'ai vu le discours. Et j'en ai produit la suite. Quand Sa Majesté dit, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui n'ont pas de précédent ni d'équivalent dans l'expérience humaine. Les hommes cherchent des solutions dans l'histoire, mais il n'y en a pas.
This then becomes the ultimate.
C'est le défi suprême.
Where are we to look for our survival? For the answers to the questions that has never been posed.
Où devons-nous chercher notre survie? Les réponses aux questions qui n'ont jamais été posées.
Then he gives the answer.
Et il donne les réponses.
First, we must look to the Almighty God who has raised man above the animals.
D'abord, nous devons regarder vers le Dieu Tout-Puissant qui a élevé l'homme au-dessus des animaux et lui a donné l'intelligence et la raison.
We must put our faith in him.
Nous devons placer notre foi en lui. Il ne nous abandonnera pas. Ne permettra pas la destruction de l'humanité qu'il a créée à son image.
We must look into the depth of our souls.
Nous devons regarder au fond de notre âme. Nous devons devenir quelque chose que nous n'avons jamais été et à quoi notre éducation, notre expérience et notre environnement nous a mal préparé.
Putting away petty prejudices.
Nous devons vaincre les préjugés mesquins en sachant que nous devons notre allégeance ultime non aux nations mais aux membres de notre communauté humaine. Je pense que ce message est valable pour toute l'humanité. Il traverse toutes les frontières et toutes les races. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, dans cette unité africaine et cette unité globale que nous désirons. C'est le devoir du petit nombre de personnes éduquées de porter les aspirations légitimes des malheureux, qui eux sont nombreux. Donc nous devons nous donner aux malheureux. Et là réside la force du mouvement.
De Kingston à Abidjan, la marche du monde est à Abbey Reggae en Côte d'Ivoire et c'est à suivre sur RFI.
Festival, c'est à Abidjan. Yes, I, c'est la marche du monde. RFI.
C'est la suite de la marche du monde sur RFI, un épisode musical consacré au mouvement Rastafari de Kingston à Abidjan. Voilà. Après Alpha Blondie, Tikenja Fakoli, l'illustre U-Roy est monté sur scène pour cette troisième édition du festival Abbey Reggae. De Kingston à Abidjan, nous retrouvons nos invités Hélène Lee, Giulia Bonacci, Sidney Salmon, professeur Ouattara, Horace Campbell et Moussa Dosso, ministre d'État et père fondateur du festival. Et pour le penser, ce festival, vous avez justement fait le voyage à Kingston.
Alors effectivement, l'idée nous vient en 2009. Et à partir de là, on s'est dit, pour donc réaliser ce rêve que nous souhaitons tous, c'était bien sûr d'aller faire ce pèlerinage à Kingston. On a fait louer donc une voiture avec l'appui d'une de nos amies qui d'ailleurs à l'époque était ministre, et on a fait donc toute la traversée pour aller à Nine Miles, donc visiter la tombe de Bob Marley et bien sûr donc discuter avec tous ceux qui étaient tout autour. Et je peux vous assurer que ça a été un voyage extrêmement utile, puisque sorti de là, on a également pu rencontrer Jimmy Cliff, avec qui on a partagé l'idée de ce festival. Chris Blackwell, on espère que pour l'édition 2018, il sera là pour nous dire des choses. Et on a pu rencontrer donc un des musiciens de Toots & Metals. Tout ceci nous a permis vraiment de consolider l'idée, c'est-à-dire d'associer la culture à la musique. Et c'est fort de tout cela que nous sommes venus. Mais alors, la petite histoire, c'est que bon, c'est que je pensais, moi, me faire les boîtes, des boîtes de reggae, des boîtes de nuit ou des bars dancing. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, donc, cette dame avec qui on était, Babsi, qui est devenue ministre actuelle, elle est retournée donc au gouvernement. Et bon, elle était presque gênée quand on lui demandait une boîte qui joue de la musique jamaïcaine, la musique reggae. Mais je peux vous assurer que non, on n'a pas trouvé. Et elle est quand même ministre de la culture depuis donc de longues années. Ça a été ça vraiment la grosse exception. Bon, voilà, on a pris notre balle en patience. Et nous, on est retourné chez nous pour mettre en place justement cette plateforme. C'est vrai que c'est d'abord la fête, mais on a voulu associer à cette fête-là la connaissance, le savoir, et c'est pour ça que nous sommes encore une fois à la troisième édition d'Abbey Reggae.
Alors, justement, Hélène Lee, parlons de cette circulation entre la Jamaïque et l'Afrique, et la façon dont ici, en Côte d'Ivoire, on se réapproprie cette culture. Est-ce que la Côte d'Ivoire est particulièrement un pays, justement, où il y a une rencontre profonde entre des artistes et cette musique? Et est-ce que forcément, cela veut dire entre des artistes et ce mouvement Rastafari?
Il faudrait peut-être demander plutôt aux gens du pays plutôt qu'à moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis que je suis venue en Côte d'Ivoire pour la première fois avant le reggae, les choses ont énormément changé, et je pense que le reggae a joué un rôle parce qu'on a l'impression enfin qu'il y a une partie de la population qui était tenue totalement en dehors du circuit. Je me souviens, le matin, on prenait le pont pour venir travailler au plateau. De Trècheville, il y avait tous les Noirs qui arrivaient. De Zone 5, il y avait tous les Blancs. Et le soir, ils repartaient chacun chez eux. Il n'y avait aucune communication. Et on dirait que j'ai eu l'impression que le reggae avait changé cela. Et que, ou qu'en tout cas, le reggae était devenu le support d'un changement dans les mentalités et d'un début de regard vers l'avenir et de communication entre les différents éléments de la société. Et je pense que votre idée, c'est de continuer dans ce chemin.
Absolument. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, Moussa Dosso, que justement la figure de Alpha Blondie pourrait être considérée comme une sorte de modèle fondateur?
Oh oui, c'est indéniable. Je pense qu'effectivement, Alpha aujourd'hui a été un exemple pour beaucoup de jeunes qui sont dans cette musique-là, qui ont fait d'ailleurs le choix. Et aujourd'hui, ils se réclament vraiment de lui. Et beaucoup plus tard d'ailleurs avec Tikenja, pareil, qui a une écurie, excusez-moi du terme, où ils font vraiment la promotion des jeunes qui sont arrivés beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, on a vraiment un bouillon de culture ici et qui donne vraiment beaucoup d'espoir.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI.
I will say to the north, give up, and to the south, hold not back. Send my sons and daughters from the end of the earth. Even those who are called by my name, Selassie.
Shashamani land, long live prophet Yah, Selassie. All solicitude is to do the things we can for humanity. To help a fellow man in any way we can.
Giulia Bonacci, en train de danser sur Shashamane On My Mind, et ça tombe bien parce que je voulais vous demander ce que raconte cette chanson. Quelle histoire raconte cette chanson ?
Cette chanson raconte l'histoire d'un Rastaman qui avance dans la vie en ayant une seule chose dans sa tête, c'est cet endroit appelé Shashamane. Et non seulement ça, mais cette chanson est aussi un appel à la solidarité avec Shashamane. Pourquoi Shashamane ? C'est une ville du sud éthiopien où l'empereur Haïlé Sélassié a donné des terres dans les années 50 pour remercier les Noirs du monde d'avoir aidé l'Éthiopie pendant la guerre contre l'Italie. C'est là que vivent aujourd'hui un petit millier de Rastafariens venus d'une vingtaine de pays. Et c'est là que vit aussi Sidney Salmon. Et cette chanson-là en particulier me berce depuis des années et fait complètement partie de l'histoire et de la vie quotidienne à Shashamane. Merci Sidney pour cette magnifique chanson.
Sidney Salmon, quel sens politique donnez-vous à ce choix que vient de rappeler Giulia Bonacci, de vivre à Shashamane en Éthiopie, sur cette terre donc offerte par Haïlé Sélassié aux Africains qui rentrent sur leur terre d'origine?
Vous savez, je n'ai jamais vraiment regardé cela d'une manière politique, parce que je crois à la spiritualité. Depuis longtemps, les Africains s'intéressent à la spiritualité. Donc ce n'était pas une décision politique pour moi, même si certains choix le sont. Je travaillais à Wall Street à New York il y a longtemps. Et après avoir distribué de l'argent dans le monde entier, j'ai finalement compris ce que je faisais. Et comme je me voyais comme un Rastafari qui devait regarder vers l'Afrique, j'ai commencé mon voyage. Donc je suis sorti de Wall Street, du monde des entreprises, pour commencer ce voyage grâce à l'organisation Les 12 Tribus d'Israël. Donc ce retour était d'abord spirituel.
Horace Campbell, vous aussi, vous êtes un Jamaïcain en Afrique et vous êtes peut-être le premier Jamaïcain, vous allez nous le dire, à obtenir une chaire d'enseignement à l'université d'Accra, donc au Ghana. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'intellectuel panafricaniste ?
Well, I give thanks and praises to those who came before me.
Je remercie ceux qui sont passés avant moi. Je viens d'une longue tradition d'intellectuels engagés
who believe that their intellectual work
qui croient que leur travail intellectuel doit servir l'humanité.
And the Rastafari and reggae,
et les Rastafari et le reggae représentent un des fronts intellectuels qui m'a inspiré,
new ways of communication.
Parce qu'il créait de nouveaux moyens de communication.
The intellectual that had probably the most important influence.
Peut-être l'intellectuel qui a eu l'influence la plus importante sur ma pensée était Walter Rodney.
Was someone who himself was influenced by the Rastafari.
Il était lui-même influencé par les Rastafari. Ceux-ci ont influencé sa recherche sur l'histoire de la côte de la Haute-Guinée en Afrique. Il était un jeune homme en Jamaïque. Il a fait sa recherche doctorale parce que les Rastas l'avaient influencé. Et par la suite, il a à son tour influencé les Rastafari. Si vous écoutez cette musique de Bob Marley, Survival,
of the groundings with my brothers.
Et si vous lisez le dernier chapitre de Grounding with My Brothers, vous verrez comment Walter Rodney fait la comparaison. Comment les Africains ont survécu à l'esclavage, au colonialisme, à l'apartheid.
And Bob Marley put that to song.
Et Bob Marley a mis ça en chanson.
How can you be sitting there telling me that you care? That you care? When every time I look around, the people suffer in the suffering, in every way, in every way. Say, no, 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 no.
got nothing. Some people got hopes and dreams. Some people got ways and means. Na 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 na. We're the survivors. Yes, the black survivors.
So in our intellectual work, we want to be able to follow the traditions.
Donc dans notre travail intellectuel, nous voulons pouvoir suivre les traditions de McKay, Garvey, C.L.R. James et ceux qui sont passés avant nous et qui ont si bien servi et si humblement.
And one other person I should add is someone called Rex Nettleford.
Une autre personne que je dois ajouter est Rex Nettleford, qui était un grand penseur de la Caraïbe.
Real human being,
une âme humaine véritable, même si certains ne l'aimaient pas parce qu'il avait une autre sexualité. Mais Rex Nettleford a fait un travail magnifique. Il a porté le Jamaican National Dance Theater sur la scène mondiale.
So those are the influences, and I believe that the independence.
Telles sont mes influences, et je crois que c'est l'indépendance de pensée qui a été reproduite si clairement par Bob Marley. Il a repris de Marcus Garvey cette expression.
Our job is to emancipate ourselves from mental slavery.
Nous devons nous émanciper nous-mêmes de l'esclavage mental, de l'asservissement des êtres humains. Pas seulement l'esclavage au sens physique, mais aussi l'esclavage mental. Et spirituel.
These are things that we must free ourselves.
Voilà les choses dont nous devons nous libérer.
Alors, dans tous ces projets portés par ces intellectuels panafricains, il y a aussi des projets politiques pour la gouvernance des Afriques et entre autres celui des États-Unis d'Afrique. Alors, comme chercheur, comme intellectuel, comment vous envisagez ce projet qui, franchement, n'avance pas beaucoup ?
Well, the United States of Africa. Is where it has always been.
Les États-Unis d'Afrique sont là où ils ont toujours été. Ces États-Unis sont l'unité des peuples africains et elle existe sur le terrain.
The artificial states that were created in Berlin in 1884.
Les États artificiels qui ont été créés à Berlin en 1884 agissent comme un obstacle à l'unification totale de l'Afrique.
But in the hearts and minds.
Mais dans les cœurs et les esprits.
Alpha Blondie,
si vous parlez à Alpha Blondie,
all of the cultural and creative artists,
et si vous parlez à tous les artistes culturels et créatifs, si vous parlez à un artiste comme Hugh Masekela, qui était dans le mouvement contre l'apartheid, instinctivement, tous ceux qui parlent de la liberté de l'Afrique parlent de l'unité de l'Afrique. Vous ne pouvez pas séparer les deux.
So, the idea of the unification of Africa, we should not look to governments.
Donc concernant l'unification de l'Afrique, nous ne devons pas regarder vers les gouvernements ou vers les États pour cette unification.
Because actually, it is going to come so fast.
Car en fait, elle va venir tellement vite.
As C.L.R. James says, it's going to come like a thief in the night.
Comme le dit C.L.R. James, elle va venir comme un voleur dans la nuit.
On va quand même poser la question aux politiques, puisqu'on en a un, même si il aime danser reggae, aller chercher des maquis à Kingston. Très sérieusement, de quelle façon cette expérience-là, elle peut inspirer aujourd'hui le politique? Et je vous repose la question, on en est où avec les États-Unis d'Afrique?
Oh là là. Bon, en fait, comme vous l'avez rappelé vous-même, hein, sur papier, on a tout mis en place. Et... je dois dire que le résultat est loin d'être, en tout cas, ce que les peuples attendent. Mais bon, peut-être que ce sont des choses qui vont venir, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, à l'image de grands ensembles comme l'Union européenne, les choses ne sont pas faites aussitôt. Donc pour moi, il faut du temps. Et il faut justement que ces plateformes-là puissent exister et que ce travail-là puisse continuer sans relâche et pas par l'ensemble justement des peuples qui composent cette Union africaine.
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Ivoiriens qui nous écoutent, avec lesquels je discute, qui semblent très préoccupés par ces familles qui sont encore très meurtries justement par la guerre? Alors, Abi Reggae, son message de paix, son message d'amour, on a tous envie d'y croire, mais concrètement, qu'est-ce que le politique, avec la culture, peut proposer, notamment aux jeunes Ivoiriens et aux jeunes Africains en général?
Non, moi, je pense que l'un des premiers travaux que les États devraient vraiment entreprendre, c'est de lutter contre l'analphabétisme. Parce que c'est une tare Et je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Depuis 2 ans, une décision a été prise au niveau de la présidence pour que on puisse de façon définitive rendre obligatoire l'éducation. Je crois que c'est un premier pas important parce que l'accès à l'éducation reste pour moi de très très loin un enjeu. Pour moi c'est un enjeu. Il faut que tous les pays et tous les peuples adhèrent à cette déclaration qui est pour moi une déclaration importante. Ça fait partie justement des devoirs assignés aux différents pays dans le cadre justement des Nations Unies. On doit y aller, on doit y aller. Et à partir de là, c'est clair que nantis d'une éducation, nantis d'une connaissance, voyez-vous, on appréhende mieux donc les problèmes et bien sûr les solutions devraient en découler.
Professeur Ouattara, ce monsieur-là, ministre d'État aujourd'hui, c'était votre copain, on en a parlé au début de l'émission. Les rêves que vous aviez, vous, ces jeunes hommes, ces deux amis, est-ce qu'il y a encore des rêves aujourd'hui qui vous semblent les mêmes que ceux que vous aviez lorsque vous découvriez justement le message des Rastafari véhiculé par la musique reggae ?
Il y a des rêves qui sont restés et qui nous guident. L'idée, c'est que si vous avancez, vous ne pouvez pas avancer seul. Vous devez pouvoir regarder derrière vous où sont, par exemple, les jeunes, les petits frères. Et quel que soit le niveau qu'on occupe, faire ce qu'il faut, ou en tout cas tenter de le faire, soit par l'éducation, la formation, faire en sorte que les jeunes puissent avoir un espoir. Abi Reggae est un festival à l'intérieur duquel il y a un colloque. Et nos partenaires sont aussi des universités. Ce sont des universités. Par exemple, à l'université de Boaké, à la San Ouattara de Boaké, on a ouvert 2 masters consacrés au reggae. C'est nouveau.
Good news. Autour de la table, on n'a que des spécialistes. Ils n'étaient pas au courant.
Et le collègue qui est rapporteur ici au festival en lettres modernes, il a un enseignement sur le reggae, son histoire. Nous sommes dans un pays francophone et c'est une manière d'ouvrir certaines fenêtres. D'abord, ces dernières années, ce qu'on a voulu, c'était d'écouter au moins les jeunes. Les écouter et puis progressivement aller vers cette ambition de partager avec eux tout ce qui concerne les problèmes de formation, d'éducation. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où se construisent de nombreux collèges et lycées avec impossibilité d'avoir les enseignants qu'il faut. Tout simplement parce qu'il faut coordonner les choses. Et Abi Reggae, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça, c'est la volonté de peser, d'aider les jeunes dans ce sens-là.
Alors quel projet pour les jeunes et leurs familles, hein, marquées par la guerre, notamment encore présente dans toutes les têtes. Hélène Lee, qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous allez, par exemple, présenter votre film dans les quartiers ici à Abidjan qu'est-ce que vous ressentez dans ce dialogue que vous avez avec les jeunes et les moins jeunes qui viennent découvrir l'histoire du premier Rasta ?
Comme tout le mouvement noir, c'est un mouvement qui est très peu enseigné. Encore moins que tout le reste. Et pourtant, il en fait une partie intégrante. C'est même la partie la plus, je dirais, surprenante, moderne, qui ouvre plein de possibilités. Donc, je trouve vraiment idéal de réhabiliter cette culture. Parce que jusqu'ici, tout ce qui était officiel, gouvernement, école, université, dévalorisait tout ce qui était Rasta. Et du coup, tous ces jeunes qui avaient de la sympathie pour ce mouvement, qui se retrouvaient dans Bob Marley et tout ça, ils se disaient « mais pourquoi c'est pas bien ?» pourquoi. Et du coup, ça leur donnait, d'eux, une image encore plus mauvaise. Et on les assimilait à des drogueurs, à des bons à rien. Alors que eux, c'était au futur de l'Afrique qu'ils pensaient. Et donc, je pense que réhabiliter cette image, c'est une façon de réhabiliter les jeunes et leur donner la confiance en eux pour prendre en main leur avenir.
Et c'est avec le dernier titre, choisi par Sydney Salmon, Mama Africa is Calling, que l'on va aller tout doucement jusqu'à la fin de cette émission. Et j'aimerais d'abord, Sydney Salmon, que vous nous parliez de ce troisième titre, peut-être en connexion avec ce que l'on vient de dire sur... Qu'est-ce que ce mouvement Rastafari peut porter comme espoir pour les jeunes générations?
Well, for to answer the first question, Mama Africa is calling is a song that is.
Pour répondre à la première question, Mama Africa is calling est une chanson que j'ai créée avec un artiste de la Côte d'Ivoire appelé Ras Goody Brown.
And, he had visited Ethiopia.
Il a visité l'Éthiopie à l'occasion d'un festival à Addis Abeba où j'étais présent, et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous avons décidé de travailler ensemble. Donc, quand nous sommes venus ici pour la première édition d'Abbey Reggae, nous avons saisi l'opportunité de faire cette chanson.
Africa is Calling is a song that is multidimensional.
Africa is Calling contient plusieurs dimensions. En particulier, elle appelle la diaspora noire qui semble parfois avoir été laissée de côté par cette unité.
AU came up with the sixth region diaspora and now we are in the AU.
Récemment, l'Union africaine a proposé la sixième région de la diaspora et maintenant nous faisons partie de l'Union africaine, les Caraïbes et l'Amérique du Sud par exemple.
Especially Cuba and Latin America, you know.
Les gens à Cuba et en Amérique latine parfois ne sont pas considérés comme des Africains. Nous n'en parlons pas assez. Donc j'essaye d'éveiller la conscience de l'Afrique dans cette direction. Je pense que c'est ce que notre frère ici disait. Cette connexion de personne à personne, cette connexion brisera les barrières. Et le reggae fait cela aujourd'hui. Dans mon travail de producteur en Éthiopie, notre slogan est le développement de l'Afrique à travers l'amour du reggae. Donc cette chanson Africa is Calling est un appel à tous les Africains, et pas seulement les Africains, mais aussi à tous les frères et sœurs dans le monde qui ont l'Afrique dans le cœur, pour leur dire rassemblons-nous et voyons si nous pouvons nous aider les uns les autres pour faire de nos ambitions pour l'Afrique une réalité. C'est grâce au festival Abbey Reggae que je suis ici aujourd'hui et c'est une grande opportunité dans ma carrière. Donc Abbey Reggae fait cela. Il nous faut plus de festivals comme celui-ci et je souhaite Abbey Reggae beaucoup de succès.
J'ai une toute petite dernière question, Sidney Salmon. Quel est l'avenir, puisqu'on parle des jeunes africains, quel est l'avenir des jeunes de Chachamané?
It's looking good right now.
Le futur s'annonce bien. Les Rastafari à Chachamané sont engagés dans l'éducation. Vous savez, Sa Majesté Haïlé Sélassié a dit que c'était notre devoir. Nous avons une école primaire, la Jamaican Rastafari Development Community School, dans laquelle nous avons près de 600 élèves, surtout des Éthiopiens. Et 100% de nos étudiants rencontrent le succès au niveau national. Donc il y a maintenant de la demande. Beaucoup d'enfants veulent venir dans notre école, surtout pour l'anglais, car nous l'enseignons à Chachamané. Nous levons des fonds par nous-mêmes, des frères et des sœurs dans le monde, des Rastafari qui connaissent l'école y contribuent. Et je voudrais mentionner particulièrement M. Carl Philpotts, qui réside à Washington et qui nous soutient et fait de son mieux pour trouver des fonds. Le gouvernement éthiopien nous respecte beaucoup grâce à cette école. Donc je suis content de partager cette nouvelle avec l'Afrique. Il y a une diaspora légitime en Éthiopie, nous y travaillons et nous voulons nous connecter avec nos frères et sœurs sur le continent. Donc une fois encore, je tiens à remercier Abbey Reggae car je n'aurais jamais eu la chance de venir en Afrique de l'Ouest si ce n'était pour ce festival.
Et peut-être que vos enfants viendront faire le master en...
Maybe your voilà, children will get their master's degree in reggae at the university.
Well, there you go, there you go. There we sow the seeds for tomorrow.
Nous plantons les graines pour le futur.
De Kingston à Abidjan, Abbey Reggae 2017, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Elliot Bourrel. Consultez La Marche du Monde sur RFI.fr pour toutes les références des livres et des disques évoqués dans cette émission. Rejoignez-nous sur Facebook, exprimez-vous, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.